Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, Soir Info, jusqu'à minuit sans interruption avec Karima Brik de la rédaction. Bonsoir cher Karima, bonsoir à Yohann Uzaï du service politique. Nous ont rejoint également ce soir Nathan Devers qu'on aperçoit à l'image. Bonsoir cher
bonsoir,
Nathan,
Julien.
Qui est passé chez le coiffeur et ça fait plaisir. Vous avez perdu 7 kilos donc grâce à cette nouvelle coupe de cheveux. Bien sûr, nous vous taquinons.
Et j'ai des chaussures.
Et vous avez mis des chaussures aujourd'hui, mais ça, les téléspectateurs connaissent moins le récit bonsoir. Autour de cette histoire. Eric Tegner est parmi nous
bonsoir,
également.
Julien.
Bonsoir chéri, bonsoir Régis Le Sommier pour nous éclairer notamment sur l'actualité internationale, mais pas seulement bien sûr aussi. Bertrand Cavalier, expert en sécurité, mon général Bertrand Cavalier, bonsoir. Merci d'être présent. On va, dans la deuxième partie de l'émission, s'intéresser à cette audition choc qui a fait l'effet d'une bombe et ces magistrats marseillais qui disent que la guerre est perdue contre les narcotrafiquants. Contre les narcotrafiquants et les dealers d'une manière générale à Marseille. Mais d'abord, l'actualité internationale qui nous concerne directement, puisque le ton est monté encore d'un cran ces dernières heures entre Paris et Moscou. Le porte-parole du Kremlin aujourd'hui, Dimitri Peskov, a estimé qu'Emmanuel Macron augmentait l'implication de la France dans le conflit en Ukraine depuis les propos du président français, vous en souvenez, notamment il y a une dizaine de jours, qui n'excluait pas d'envoyer des troupes occidentales sur place, qui a surenchéré en tout cas persister plutôt à Prague cette semaine également. Écoutez, Dimitri Peskov, plutôt, pardonnez-moi, nouvel avertissement d'une certaine manière envers la France.
Emmanuel Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays. Et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France.
Et pour aller encore plus loin, c'est Dimitri Medvedev qui a également tweeté, l'ancien président russe, qui est un des proches, hein, toujours bien sûr, de Vladimir Poutine. Macron a déclaré qu'il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite en termes de soutien à l'Ukraine. Il cite Le Monde, Dimitri Medvedev. Cela signifie donc que la Russie n'a plus de ligne rouge pour la France. Cette citation en latin, inostem omina licita, et comme chacun sait, qui signifie tout est permis face à l'ennemi, n'est-ce pas, Régis Le Sommier? Comment interpréter les propos du porte-parole du Kremlin qu'on a entendus, ceux de Dimitri Medvedev? Vladimir Poutine, lui, il y a une semaine, puisqu'on parlait également du discours de Vladimir Poutine ensemble la semaine dernière, qui avait mis en garde la France, mais qui n'avait pas nommé précisément notre pays. C'est donc, fait ce soir.
Bah, Vladimir Poutine avait parlé de destruction de la civilisation, donc dans l'escalade.
Mais là, le mot France est prononcé. Ça n'a pas été cas la semaine dernière.
Non, c'était la semaine dernière. On était en fait. Poutine avait repris le discours que tenait Medvedev sur le feu nucléaire, sur Armageddon, etc., etc. Ce qui était habituel. Là, bah oui, c'est une sorte d'échange, de politesse, on va dire. Mais moi, je voudrais quand même signaler que il s'est passé une chose hier. Le président Zelensky est allé remettre des médailles à des commandos marines à Odessa. Il était accompagné du premier ministre grec. Et les Russes ont frappé, justement, cette remise de médailles et un hangar qui contenait des drones navals. Vous savez que les drones navals posent beaucoup de problèmes à la flotte russe en mer Noire. Ça s'est passé à 150 mètres. À 10 minutes près, l'endroit où était Medvedev avec le Premier ministre. Et ça, je pense que... Et vous savez ce qu'ont fait les Russes ? Les Russes ont publié aussi des photos montrant le convoi de Zelensky le 8 juin dernier à Kherson en visite. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas la première fois qu'ils l'ont dans leur viseur. Et ça veut dire que là, ils ne l'ont pas visé. Et c'est encore plus inquiétant, je trouve, de savoir...
Qu'il est à leur portée un peu quand ils veulent.
Et qu'ils ne le font pas. Voilà. Et qu'en plus, vous
pourquoi
aviez
ils ne le font pas,
le
votre
premier,
avis
ben, vous aviez le premier ministre grec d'un pays membre de l'OTAN, quand même, en visite. Donc vous voyez, il y a une manière pour les Russes de dire, vous voyez, on peut aller plus loin.
On peut aller plus loin, mais on sait que l'OTAN peut être aussi un adversaire à notre taille.
Ah ben tout à fait.
C'est aussi le message sous-jacent de ne pas procéder à ces attaques.
Et précisément dans un endroit où... Odessa,
qui est un peu sur lequel peut-être avec Kharkov va se jouer l'avenir de la guerre en Ukraine.
Tout est permis face à l'ennemi, donc dit aujourd'hui Dmitri Medvedev, général Cavalier, le face-à-face entre deux puissances nucléaires est de plus en plus dur.
Alors oui, la France est une puissance nucléaire, mais je crois qu'il faut resituer les déclarations du président Macron, avoir une appréciation quand même objective des choses. Vous avez un pays qui en a agressé un autre, vous avez un peuple qui est le peuple ukrainien qui ne veut pas du joug russe, il faut quand même le rappeler. Mmh. Après, pour reprendre Raymond Aron, un rapport de puissance face à une autre puissance doit s'installer. Il passe évidemment par une montée en puissance des capacités militaires. Et la grande question, c'est où seront les limites de tout cela, qui fixera les limites. Car à terme, il faudra quand même arriver à une négociation. Je rappelle quand même que la Russie, c'est 4 fois l'Ukraine, en population. Ils ont une profondeur stratégique. Il y a un peuple russe qui est quand même conditionné, nonobstant le fait qu'il y a une minorité qui conteste la guerre. Mais le principe de réalité devra quand même s'imposer un jour.
Qu'est-ce que ça vous évoque, les déclarations du porte-parole du Kremlin, donc, qui dit que le niveau d'implication de la France augmente, Dmitri Medvedev qui dit donc que, comme la France, la Russie n'a plus de ligne rouge. Ces déclarations, elles sont faites pour faire peur à l'opinion, également en tout cas pour diviser l'opinion, le cliver un peu plus sur cette question. Ils savent ce qu'ils font, les Russes. Il y a une menace offensive, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément concrète. En revanche, il y a une manipulation des esprits occidentaux qui est évidente également.
Il y a un vieux registre dans lequel va agir l'adversaire, c'est l'action psy, c'est d'attaquer les volontés. Bon, là, vous avez des politiques déjà qui ne sont pas forcément coordonnées, en tout cas, ils ne sont pas sur la même ligne. L'Allemagne, on a vu, mais l'Allemagne est atteinte par le syndrome d'un pacifisme depuis 50 ans, 60 ans. C'est plus une nation qui a une culture militaire, c'est une nation qui est devenue mercantile. C'est la Ligue hanséatique aujourd'hui. Donc la France, il y a quand même un certain consensus s'agissant du rapport de force avec la Russie. Et donc les Russes, qui sont quand même experts en la matière, vont tout faire pour essayer de créer des intervalles, des scissions, de provoquer des oppositions en interne. En France. Mais c'est un jeu classique, si vous voulez.
Oui, et puis il y a la propagande russe également qui suit derrière. Vous savez qu'on vous montre régulièrement les images de cette télé nationale d'État avec ce présentateur complètement fou qui nous menace par caméra interposée avec son plateau. Aujourd'hui, ils ont joué à savoir quelle ville française il fallait bombarder en premier.
Je n'arrive pas à me décider pour Paris ou Marseille. Bucarest, bien sûr. Puis Paris, Marseille, Lyon. Lyon est une ville agréable. Il y a un festival du feu là-bas en plus. Et en Allemagne, pour se venger des missiles russes. Que détruire ? Hambourg ? Hambourg, oui. Ou peut-être Munich. Il faudrait peut-être faire un sondage pour savoir quelles sont les villes qu'ils n'ont pas peur de perdre. Les villes qu'ils n'ont pas peur de perdre, pour qu'ils comprennent où mènent les idiots qui gouvernent ces pays.
Sympa la télé russe. Ça laisse cette impression, Éric Tegner, d'être quand même en première ligne désormais.
Oui, après ce type de déclaration, ça fait longtemps à chaque fois. Avec
je suis plus impressionné par messieurs Peskov et Medvedev que par Quentin à la télévision. Ça, c'est. Enfin, je dis ça, derrière, je vais me faire pirater.
Moi, je trouve que les déclarations du président Macron sont intéressantes pour un égard, c'est que, vous savez, aujourd'hui, ça permet de définir un peu les buts de guerre. Et on sait qu'en fait, on peut tout à fait faire face à la Russie à partir du moment où on peut justement les armer, leur donner de l'argent, etc. Mais on commence aujourd'hui à poser la question des hommes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les Russes qui ont des ressources quasi inépuisables en hommes, et de l'autre, l'armée ukrainienne aujourd'hui qui a subi énormément de pertes. Et donc Emmanuel Macron, justement, en posant cette question de se dire qu'il faudrait peut-être amener des troupes au sol, pose la véritable question. Et derrière, même si je ne souscris pas à ce qu'il dit, parce que je trouve ça très dangereux, que je pense d'ailleurs qu'on ne le fera pas à la fin, ça permet de se dire qu'en fait, effectivement, l'Ukraine aujourd'hui, il faut les défendre, mais jusqu'où ? Est-ce que dans le fond, en essayant à tout prix de repousser la Russie en dehors du Donbass et de récupérer la Crimée, on ne va pas, et donc de ne pas négocier dès maintenant comme on avait pu le faire au mois d'avril 2022, On ne va pas arriver sur une situation que craignent aujourd'hui notamment les services de renseignement américains d'un effondrement de l'armée ukrainienne à la fin de l'année 2024 dans le cadre aussi d'un désengagement en tout cas financier des États-Unis. Donc je trouve que ça permet vraiment, parce que c'est la question en fait, si aujourd'hui les Occidentaux veulent récupérer l'Ukraine dans sa totalité, effectivement on n'aura pas d'autre choix que d'envoyer des troupes.
Surtout les Ukrainiens qui veulent récupérer l'Ukraine
dans sa totalité. Et donc il faut être capable aussi de dire les choses. Moi je pense qu'il ne faut pas le faire, mais du coup ça permet, vous savez, on l'a vu sur Israël, définir les buts de guerre, c'est crucial.
Jusqu'où faut-il aller pour défendre l'intégrité de l'Ukraine? C'est la question qu'on se pose depuis 2 ans. Karima, Nathan, Johan.
Mais c'est-à-dire qu'au départ, les alliés de l'Ukraine se disaient « on va y arriver ». Il y avait eu les sanctions économiques, notamment avec la Russie. Tout
on a
ça,
bien mis la Russie à genoux, comme le prévoyait Bruno Le Maire il y a 2 ans.
Et donc, je pense que ça a été une douche froide, en fait, pour les alliés, de se dire non, après 2 ans, on est encore enlisé dans cette situation. Et l'Ukraine, en plus, en ce moment, est en difficulté. C'est ce qu'on semble comprendre quand on regarde un peu les lignes de front. Alors, on est passé, je pense que pour ce qui est de la France comme telle, c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron d'en appeler une sorte de sursaut. Faut dire que, l'actualité, il y a eu, évidemment, il y a ce qui se passe du côté guerre Israël avec le Hamas, qui a pris un petit peu la lumière au cours des dernières semaines. Donc, le conflit avait été un petit peu, on parlait moins de ce qui se passait en Ukraine. Et on réalise donc la difficulté dans laquelle s'enlisent les combattants ukrainiens. Et c'est d'arriver et de dire avec un sursaut, maintenant, et de prendre aussi, je pense, le rôle un peu de leader. Parce que la France, on l'a dit, oui, c'est évidemment cette puissance nucléaire en Europe. Elle a ce pouvoir de médiation, d'intervention aussi. Elle est membre permanente pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est de reprendre un peu les rênes de tout ça. Et juste de rappeler aussi, donc, il y a ce message à l'international, c'est de rétablir un rapport de force avec Vladimir Poutine en disant c'est pas vrai qu'on va se laisser faire, il y a peut-être des difficultés en ce moment avec l'Ukraine, mais c'est d'essayer de rallier un consensus, même si on a vu que
la méthode pour l'instant laisse à désirer
exactement.
Si on écoute nos partenaires européens.
Tout à fait, mais je pense que c'était cette idée de sursaut et aussi peut-être en terminant pour ce qui est de l'opinion publique. Si on regarde par exemple la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP, quand on fait des enquêtes d'opinion, on regarde au début du conflit, les Français avaient, par exemple, une très, très bonne opinion de l'Ukraine. On voit que, ça a diminué avec le temps. Donc, c'est de ramener cela à l'avant-plan et de se dire que, oui, il faut faire quelque chose pour pas justement basculer, même si les Français ont très peur et avec raison de véritablement embarquer dans une troisième guerre mondiale avec des pertes d'hommes. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument effrayant.
Et bien sûr, et ça fait ces échanges entre les différents dirigeants russes et français, en effet, inquiètent l'opinion française qui, en très grande majorité, d'ailleurs, s'insurge contre l'éventualité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Emmanuel Macron, qui, on le verra dans 2-3 minutes, a reçu les chefs de groupe, les chefs de parti aujourd'hui à l'Élysée. Il a assuré qu'il n'y aurait aucune limite ni aucune ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine. Avant de voir ce qui s'est dit à l'Élysée, je voudrais juste que vous lisiez avec moi le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui est très incisif également, encore une fois, contre le chef de l'État. Macron persiste et signe une analyse, Johan. Il suit une logique de menace de guerre avec la Russie. Elle est intenable. Elle ne peut avoir d'autre sens que la destruction nucléaire du continent. La France doit se mettre en tête du camp de la paix et de la négociation immédiate. Ni la Russie, ni l'Ukraine, ni l'OTAN, ni l'Europe, ni la France n'ont les moyens d'une guerre d'usure localisée. Un plan de paix est possible, prenant en compte les intérêts de chacun. Mise sous protection de l'ONU, démilitarisation des zones des centrales nucléaires ukrainiennes, cessez-le-feu, conférence des frontières, référendum des populations concernées, garantie mutuelle et sécurité pour l'avenir. En gros, ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que cette séquence, depuis une dizaine de jours, il taxe le président d'une forme d'inconscience, d'irresponsabilité.
Oui, mais je crois que Jean-Luc Mélenchon fait semblant de ne pas comprendre ce qu'a voulu dire le chef de l'État.
On est nombreux dans ce cas-là.
Non, mais peut-être. Mais Jean-Luc Mélenchon a bien conscience que le chef de l'État ne va pas engager demain ni après-demain des troupes pour aller combattre des troupes françaises, pour aller combattre des troupes russes. Jean-Luc Mélenchon le sait, cela. Donc, évidemment, il fait semblant de ne pas le savoir et il entretient cela dans une stratégie aussi électoraliste, naturellement. Mais comme d'autres partis, on est aussi en campagne pour les élections européennes, ne l'oublions pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en recevant les chefs de parti aujourd'hui à l'Élysée, le fait naturellement pour replacer l'Ukraine au centre de cette campagne électorale de manière à essayer de déstabiliser certains de ses adversaires. Je fais naturellement référence au Rassemblement national. Mais Emmanuel Macron a, me semble-t-il, encore une fois, voulu essayer de réveiller les Européens en leur disant bientôt il est probable que les États-Unis ne soient plus là, c'est à nous de prendre notre sécurité, notre destin en main, donc réveillez-vous, augmentez vos budgets de défense, etc., etc. Tenez vos promesses parce qu'elles ne sont pas tenues, tenez vos promesses concernant les livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine. Voilà, il a voulu essayer d'envoyer une sorte de sursaut à ses alliés européens.
En l'état, comment rivaliser avec la Russie? Écoutez le général Paloméros et Nathan, vous qui n'avez pas encore exprimé votre sentiment sur la question, vous commenterez ce qui vient d'être dit.
On voit bien que les Russes ont compris. C'est-à-dire on ne peut plus rien leur cacher aux Russes. Ils connaissent nos limites pratiquement depuis le début. Et encore, on les a repoussés un peu. On a utilisé des armes qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais ils savent très bien que la limite absolue, la ligne rouge, c'est pas d'engagement sur le terrain et pas de co-belligérance. L'espoir n'est pas une stratégie. Mmh. Et le meilleur moyen de répondre à M. Poutine, c'est de renforcer les alliances, renforcer l'UE qu'il considère comme un non-joueur, renforcer l'OTAN qui est son plus gros ennemi, et lui montrer notre détermination.
Nathan Devers, commentaire.
D'abord, c'est drôle parce que dans le tweet de Medvedev, lui qui prétend représenter la vraie Europe contre l'Europe décadente, il y a une erreur de latin. Ou alors c'est volontaire.
Omnia, il n'y a pas de...
Oui, ça veut dire l'inverse, parce que du coup, quand il dit omina, omen, c'est le vœu. Donc, contre l'ennemi, tous les vœux sont permis. Donc, il nous souhaite du bonheur sans le savoir. Alors, là où c'est en effet intéressant...
Je ne voulais pas étaler mes connaissances latines en relevant cette faute.
C'est intéressant.
Pour moi.
C'est toujours intéressant de voir que les gens qui prétendent être la vraie Europe... La grande civilisation contre la décadence, déracinée, déconstruite, parce que c'est tout le discours des idéologues qui entourent Vladimir Poutine, ne connaissent rien aux prétendues racines qu'ils prétendent conserver. C'est pas une anecdote. Deuxièmement, sur cette question des limites, moi il me semble qu'il faut quand même être, si vous voulez, objectif sur un point, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron dans cette affaire d'avoir été, comme on le dit beaucoup, « va-t'en-guerre ». Il faut quand même rappeler une chose, Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, il a été élu avec, ça a été montré, la Russie qui a fait des opérations de déstabilisation pendant l'élection, qui voulait soutenir la candidature de Marine Le Pen. En 2017, son premier acte est de recevoir Vladimir Poutine avec les honneurs au château de Versailles pour engager une nouvelle relation diplomatique, si vous voulez, qui tient compte de la grandeur de la Russie. C'est ce qu'il dit à l'époque. Depuis... Quand il y a eu la montée en tension qui a précédé, dans les semaines qui ont précédé l'agression de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron, et tout le monde se moquait de lui d'ailleurs un petit peu, il passait son temps à aller en Russie, au Kremlin, en Europe, absolument partout, pour tout faire dans la voie diplomatique pour empêcher la situation actuelle. Donc il me semble qu'il ne faut pas inverser la chose. Deuxièmement, la limite. Quand même, quand on voit l'historique de la politique de Vladimir Poutine, parce que ça n'a pas commencé avec l'Ukraine cette histoire, la limite et le mépris qu'il a envers l'Union européenne et l'Occident de manière plus générale, c'est sur notre faiblesse, entre guillemets. Là, on parle de ligne rouge. On ne peut pas ne pas penser au fait que ce mot de ligne rouge était le fameux mot employé par Barack Obama concernant la guerre en Syrie, où il avait fixé une ligne rouge à partir de laquelle il interviendrait. Et puis, une fois que Vladimir Poutine avait dépassé la fameuse
ligne rouge... La ligne rouge à partir de laquelle la France va entrer en guerre en Russie.
Non, mais ce que je dis...
Bachar al-Assad qui avait dépassé cette ligne rouge, c'était pas...
Oui, exactement. Mais c'était Vladimir Poutine n'était pas pour rien, évidemment. Bien sûr, évidemment que c'était Bachar al-Assad. Évidemment, tout le monde s'en souvient. Mais c'était Vladimir Poutine n'était pas sans lien avec cette affaire. Et ensuite, Barack Obama s'était retiré. Tous les anciens dirigeants, et même les dirigeants actuels, de Angela Merkel à Barack Obama, à François Hollande, à tout le monde, tous les gens qui ont interagi avec Vladimir Poutine sur les 10 dernières années disent précisément cela. Donc moi, il me semble qu'au contraire, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est précisément le contraire de ce qu'on lui reproche d'être va-t-en-guerre, etc. C'est au contraire d'être dans une vraie logique de dissuasion, c'est-à-dire de dire en gros à Poutine que ce qui a été possible en Syrie par la faiblesse de Barack Obama ne le sera pas ici en
Ukraine. La France n'est pas capable de dissuader la Russie.
Mais évidemment que la France n'est pas seule capable. Et une chose, c'est qu'évidemment, tout dépend de la situation américaine.
Donc avant de faire des annonces comme celle-ci, peut-être eut-il fallu consulter nos alliés et penser à une réponse commune, offensive peut-être, mais commune.
Et si je peux me permettre juste de répondre, mais en fait, il y a deux choses là, dans les propos d'Emmanuel Macron sont devenus brutalement, en effet, très bellicistes ou pro-guerre, etc. Bon, en tout cas, pour plus de limites, c'est ce qu'il a dit au chef de parti. Il y a la situation sur le terrain, il faut la rappeler, ce que disait le général Paloméros, on a fait un peu reculer les Russes, j'ai cru entendre ça, c'est pas vrai du tout. Les Russes, actuellement, on n'est plus dans la guerre d'attrition dans laquelle on était, on est dans une offensive sur l'ensemble du front des Russes, elle n'est pas massive, mais si vous voulez, les Russes grignotent des villages un peu partout, sur tout le front, 1200 km, et les Ukrainiens sont à la peine pour retrouver des lignes défensives après la chute d'Avdiivka. Après la chute de Bakhmout, ils avaient réussi à se repositionner à l'ouest de la ville. Là, ils n'ont pas été capables de le faire, et on assiste à ce qui s'était passé pendant l'histoire, avec l'Allemagne en 43, c'est-à-dire que on a des unités, l'Ukraine envoie des unités en mode pompier pour essayer de colmater des brèches dans lesquelles les Russes s'infiltrent. Donc là, actuellement, vous avez une guerre qui peut potentiellement craquer, ça peut-être faire craquer le front. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Européens ont extrêmement peur et Emmanuel Macron est aussi incisif. L'autre aspect, on l'a évoqué tout à l'heure.
C'est-à-dire que tout le monde a peur de Vladimir Poutine, sauf Emmanuel Macron aujourd'hui en Europe ?
Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est la deuxième partie est importante. On a assisté aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez donc, hier, vous avez eu le Super Tuesday. C'est très, très important. C'est pas simplement l'élection américaine. Ça veut dire que voilà, Trump est sur les rails. En revanche, Biden montre des signes de faiblesse. Vous avez également l'impossibilité de voter ces nouvelles aides de 60 millions de dollars au Congrès. Donc, l'aide, elle ne va pas arriver. Donc, en gros, les Américains disent, sans le dire aux Européens, c'est à vous de prendre le relais.
Débrouillez-vous.
Parce que nous, on va pas s'y prendre. Et dernier élément, la démission de Victoria Nuland, qui était la numéro 2 du département d'État, qui était une des plus acharnées à la défense des Ukrainiens depuis Maïdan, qui avait vraiment été pour justement aller le plus loin possible avec l'Ukraine. Donc elle a démissionné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ne sont plus dans un mode moteur dans la question. Donc là, on comprend aussi peut-être. C'est peut-être un élément d'explication pourquoi Emmanuel Macron prend ce leadership que les Allemands, dont les Allemands ne veulent pas. Et pour les Britanniques, c'est un peu toujours le cul entre deux chaises puisque c'est l'allié des États-Unis, etc. Donc là, Emmanuel Macron essaye de jouer une partition de chef de l'Europe.
Général, je sais que vous voulez prendre la parole. Je veux juste qu'on voit le sujet sur la réunion avec les partis aujourd'hui, puis vous rebondirez. Emmanuel Macron qui recevait donc tous les chefs de partis politiques à l'Élysée pour discuter de ce soutien à l'Ukraine. Cette réunion qui intervient en marge d'un débat parlementaire qui va se tenir le 12 mars sur le sujet. Il a assuré donc que le soutien de Paris à Kiev n'avait aucune limite, je le cite, aucune ligne rouge. Regardez ce récapitulatif avec Régine Delfour.
Après près de 3 heures de discussion avec Emmanuel Macron, les différents chefs de partis politiques ne cachent pas leurs craintes.
Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne fixait pas de limite dans l'action de la France en Ukraine et que, je cite ces termes, il fallait soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte. Je ressors avec plus d'inquiétude encore parce que le président de la République ne semble pas vraiment prendre la mesure du risque que pourrait faire courir pour la France, mais pour le monde de manière générale, un entêtement dans cette voie militaire.
Emmanuel Macron s'est montré inflexible. Certains dénoncent son irresponsabilité.
Le président de la République dit clairement aux Français, aux forces politiques, que la position de la France a changé. Il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite.
D'autres s'interrogent sur l'utilité de cette réunion.
Et on peut surtout se demander l'utilité, la pertinence des déclarations du président de la République.
Enfin, beaucoup déplorent son entêtement stratégique.
Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours, des positions de va-t-en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes françaises en Ukraine, suscitaient l'inquiétude dans le pays auprès des Français.
Les débats au Parlement la semaine prochaine s'annoncent des plus agités.
Général Cavalier, ce que nous disent d'une certaine façon les chefs de partis politiques à travers cette réunion, c'est que les Français n'ont pas envie de mourir pour l'Ukraine.
En fait, ils jouent le court terme, ils jouent l'opinion.
Ah oui, mais bon.
Bon, Oui, mais ce n'est pas forcément un objectif politique digne de ce nom, digne de ce niveau. Ce que je veux dire pour revenir...
Ils sont sortis inquiets, en tout cas, de
cet entretien à l'Élysée. Non, mais pour revenir sur l'Ukraine, il ne faut pas oublier que pour Poutine, parce que Poutine a quand même un rôle central dans cette vision expansionniste, c'est de reprendre Kiev. Bon, est-ce que ces leaders...
C'est encore un but de guerre de Vladimir Poutine.
Mais ça a toujours été l'objectif.
C'était l'objectif les premiers jours.
Non, mais attendez, c'était l'objectif. Et ça reste quand même l'objectif. L'Ukraine est considérée comme russe, comme une province russe. Est-ce que ces dirigeants politiques sont d'accord pour que Kiev redevienne, que l'Ukraine redevienne une province russe?
Bertrand Cavalier, c'est pas d'actualité.
Mais
ça fait deux ans qu'ils essaient de prendre le Donbass.
Je pense qu'actuellement, c'est Kharkov et Odessa.
Mais je vous dis simplement, l'objectif symbolique,
ça sera pas Kiev.
C'est l'objectif symbolique.
Oui.
Deuxièmement, quand on parle de 1943, il ne faut pas oublier non plus que les Allemands ont perdu la supériorité aérienne. Et actuellement, ce qui est vital pour les Ukrainiens,
ils l'ont jamais eu.
C'est de gagner la maîtrise du ciel en obtenant la livraison plutôt des F-16, notamment du Danemark. Ce qui permettra de quand même rééquilibrer les choses, parce qu'ils sont en infériorité numérique, et puis il y a une certaine lassitude de la population ukrainienne. Mais la question centrale, la question de fond qu'il faut se poser, que voulons-nous ?
Ça, c'est la question qu'on aimerait poser tous, évidemment, au chef de l'État. Parce que pour l'instant, il y a cette impression, c'est vrai, alors qui est peut-être court-termiste, pour reprendre ce que disait Bertrand Cavalier, mais qui est quelque chose de très français, de vouloir susciter l'admiration, être l'exemple, notamment européen, susciter l'admiration des alliés. Mais le sentiment, c'est que c'est contre-productif de les montrer du doigt en se mettant soi-même en exemple, Johan.
Non, mais pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Élysée, je vois les chefs de parti inquiets. En fait, on a assisté aujourd'hui à une vaste comédie politique.
Ah bon ?
Parce que la réalité, c'est que tout le monde a bien compris qu'Emmanuel Macron, encore une fois, ne voulait pas envoyer de troupes françaises combattre des troupes russes. Emmanuel Macron a tout intérêt à avoir...
Alors décryptez pour moi, s'il vous plaît. Aucune limite ni aucune ligne rouge, qu'est-ce que ça veut dire ?
Emmanuel Macron a tout intérêt, effectivement, à jouer un peu au va-t'en-guerre, pour reprendre cette expression, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, pour réveiller les Européens, pour leur dire attention, bientôt les Américains ne seront plus là, pour dire à Vladimir Poutine nous sommes déterminés, nous ne vous laisserons pas faire, la force de dissuasion, etc. etc. Et puis en convoquant ces chefs de parti, encore une fois, on me dit depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, qu'Emmanuel Macron veut placer l'Ukraine au centre de ces élections européennes. C'est ce qu'il fait en recevant les chefs de parti à l'Élysée. Il veut cela pour essayer de déstabiliser le Rassemblement National, mal à l'aise sur ces questions, effectivement, et parce que le Rassemblement National aujourd'hui est très largement en tête dans les sondages. Et puis les oppositions...
Faire peur à la population comme ça pour des enjeux politico-politiques, c'est quand même assez...
Pas uniquement politico-politique, pour toutes les raisons que je viens de vous décrire.
Et puis vous êtes en train de me dire que le 9 juin, en gros, il va dire aux responsables politiques, ou plutôt aux Français, pardon, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec Vladimir Poutine, en gros. C'est la stratégie qu'il est en train de mettre en place.
C'est un peu ce qu'a dit Gabriel Attal lors des questions au gouvernement, quand il a accusé Marine Le Pen d'être en France avec ses troupes, troupes de Vladimir Poutine. Donc, quelque part, ça fait partie de ce débat pour les élections européennes.
Toute cette gesticulation, c'est de la campagne pour les Européennes.
Et puis, on a entendu les oppositions, notamment Éric Ciotti, dire Emmanuel Macron nous inquiète, etc.
C'est scandaleux. Permettez-moi de vous interrompre. C'est absolument scandaleux qu'un président... Il instrumentalise la guerre à des fins de basse politique.
Mais c'est de la politique.
On est quand même. Quand même.
D'instrumentalisation, comme dit Régis, c'est hallucinant.
On parle simplement
finir en vous disant que les oppositions, effectivement, ont aussi un intérêt à cela, en disant Emmanuel Macron nous inquiète beaucoup, nous sommes inquiets, parce que ça leur permet de dire il est en train de devenir fou, attention, il faut le sanctionner aux élections européennes, donc votez pour nous. Le vote de la raison pour les élections européennes, c'est de dire non à Emmanuel Macron, et donc de voter pour les Républicains, de voter pour qui vous voulez, mais surtout pas pour la liste Renaissance. Donc chacun y trouve un intérêt en réalité. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, c'était un cirque politique.
Il nous reste 3 minutes avant le journal. Je voudrais qu'on ait des prises de parole concises, s'il vous plaît. Éric Carima,
électoraliste. Il n'a aucun intérêt à prendre cette position d'un point de vue électoraliste.
Si, naturellement, je vous dis,
c'est soit vous êtes avec Poutine, soit vous êtes avec moi. Il instaure le camp du bien.
Moi, je pense, Julien, que d'ailleurs, il se trompe et il fait une erreur stratégique. Aujourd'hui, ce qu'il met en avant,
c'est... Emmanuel Macron est inquiet, et ça, c'est une réalité. Ça n'empêche pas le fait qu'il soit inquiet.
Il pas de l'électoralisme.
Et qu'il pense réellement que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. Ça, il en est convaincu.
Je pense qu'il la voit perdre.
Par rapport à sa propre stratégie, c'est une grave erreur, parce que déjà, qu'est-ce qu'il montre aujourd'hui à Vladimir Poutine? Que dans le cas d'une décision de quelqu'un d'envoyer des troupes au sol, eh bien l'Europe elle est divisée. et qu'aujourd'hui le couple franco-allemand, par exemple, sans qui on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui au sein de l'Union européenne, eh bien, n'est absolument pas aligné. Aujourd'hui, Scholz et Macron ne se parlent plus. Je pense que je rejoins Régis tout à l'heure qui disait que demain, les objectifs, ce sera d'abord Odessa et Kharkov. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on voulait négocier avec Vladimir Poutine, on ne pourrait pas. Il faut en avoir conscience. Pourquoi ? Parce qu'au moment, si à un moment donné, Odessa tombe et Kharkov tombe, là, il y aura à nouveau, potentiellement, une nouvelle fenêtre d'ouverture des négociations. Parce que leur objectif, hein, c'est aussi faire ça, la jonction aussi avec les troupes pro-russes en Transnistrie, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et derrière, à ce moment-là, est-ce qu'on dira, bon, on fait un deal maintenant ? Ou est-ce que, pour le coup, on prendra le risque de continuer ? Et potentiellement demain de voir Kiev qui veut tomber. Parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, Julien, c'est que l'opinion internationale, elle est en train de changer. Et selon moi, on n'analyse pas assez ce qui se passe depuis le 7 octobre. Pourquoi ? On le voit d'ailleurs avec Biden. Si Biden, en effet, peut perdre, c'est parce que une partie de son électorat aujourd'hui soutient la cause palestinienne. Et donc, en fait, cette idée selon laquelle il faudrait aujourd'hui défendre l'Ukraine parce que les Russes, en gros, sont les méchants qui tuent beaucoup de gens, elle est beaucoup moindre. Vous savez, moi, j'ai découvert la bataille de Mariupol pendant 2 mois. Dans le fond, aujourd'hui, quand on calcule le nombre de morts, on se retrouve avec moins de morts à Mariupol qu'il y en a aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et les gens, vous savez, c'est un argument qui parle. On a vu Joe Biden et on a vu des dirigeants européens dire, en fait, on est presque prêt demain à avoir une guerre nucléaire pour défendre les Ukrainiens. Et aujourd'hui, ben, il n'y a pas du tout la même position, en fait, humaniste par rapport à Gaza. Et bien entendu que ça fragilise l'opinion. Et quand il fait ça, d'ailleurs, il risque de montrer Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen comme en fait, la voie de la raison, voie de la rationalité et de l'équilibre. Et donc Emmanuel Macron, justement, peut diviser le front pro-ukrainien.
Éric, Nathan et Karima, il nous reste 1 minute 30 avant le journal.
En politique et en géopolitique, là, c'est pas nous qui choisissons notre ennemi. C'est pas à nous, si vous voulez, la France, d'avoir le choix de dire est-ce qu'on veut être ami ou ennemi avec la Russie, ou même neutre ou ennemi avec la Russie. Vous avez montré tout à l'heure cet extrait de la télé russe, tout se fait avec le contrôle du Kremlin, où ils disent qu'ils envisagent, même si c'est une plaisanterie, de bombarder la France, où clairement la France est désignée comme ennemi. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron, son geste initial, c'était de vouloir tendre la main à la Russie de Vladimir Poutine dans le cadre d'une diplomatie constructive en quelque sorte.
Entre le moment où il tend la main et aujourd'hui, il y a eu l'invasion de l'Ukraine.
Quand on voit l'électoralisme, pour le coup, des oppositions, où en effet, l'Europe est en guerre, où en effet, il y a un certain nombre de pays qui sont menacés, et à long terme, la France. Et quand il y a des, si vous voulez, des oppositions qui se couchent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui se couchent devant les impérialismes, alors on se couche devant l'Iran des Mollahs, on se couche devant la Chine de
Jinping. Vous avez envie d'aller en Russie faire la guerre,
Mais encore une fois, ça ne se passe pas comme ça. Emmanuel Macron n'a jamais envisagé une seule seconde qu'il y ait des soldats français qui aillent mourir pour faire la guerre en Ukraine.
C'est pas le sujet.
L'alternative
n'est
pas là. L'alternative, elle n'est pas là.
Les gens lisent ce qu'on leur dit. L'alternative, c'est simple.
C'est que, par exemple, s'agissant du tweet de M. Mélenchon que vous avez cité, M. Mélenchon, systématiquement, quand il y a un empire violent et agressif, qu'il s'agisse de la Chine par rapport à Taïwan, qu'il s'agisse de la Russie par rapport à l'Ukraine, il se met dans une position de neutralité.
Emmanuel Macron,
encore une fois, n'a rien de gaullien. Rien de gaullien.
Karima, pour conclure, s'il vous plaît.
Mais comme la guerre d'usure s'est installée après 2 ans, il y a aussi un message, je pense, à la population qui est envoyée, la population des différents pays alliés. Pourquoi? Parce qu'on a basculé, je pense qu'il y a une forme de tragique. On est beaucoup dans nos pays, vous savez, préoccupés, et avec raison aussi, pouvoir d'achat. On est centré un peu sur ce qui se passe chez soi. Et maintenant, on se rend compte qu'on n'a pas le choix de regarder aussi à l'extérieur, que ça implique des choses aussi. Ça implique des sacrifices financiers, ça implique beaucoup de choses. Et
on
notamment,
les a déjà fait, les sacrifices.
Oui, mais c'est ça. On se rend compte aussi que c'est pour ça que je dis on a basculé aussi dans un tragique. Il y a la guerre qui est aux portes de l'Europe et maintenant, il y a un effort militaire à faire et c'est un peu... On est rendu à cette étape après 2 ans. C'est ça le problème. On espérait que ça se règle rapidement. Bon. Et au départ, même Volodymyr Zelensky qui disait on va même aller récupérer jusqu'à la Crimée et on voit qu'aujourd'hui, à quel point la situation est extrêmement difficile.
Que voulons-nous?
Eh bien, c'est ça.
Il faudrait déjà qu'on se mette en économie de guerre et c'est pas en 6 mois qu'on va s'y mettre.
Il faudrait déjà qu'on se mette en économie de guerre pour essayer de régler les problèmes sur notre sol avec une ville comme Marseille, dont les principaux magistrats disent que la guerre est déjà perdue contre les narcotrafiquants. Pardon pour la transition un peu hasardeuse, mais juste merci, mon général. Maureen Vidal, d'abord, l'essentiel de l'actu.
La CGT va déposer un préavis de grève dans la fonction publique sur la période des Jeux Olympiques, notamment à l'hôpital. Il faut enfin que nos alertes soient entendues et que les Jeux soient préparés d'un point de vue social, a déclaré ce jeudi la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Les syndicats réclament des primes et compensations pour les salariés qui travailleront pendant l'événement. Nicole Belloubet annonce un assouplissement dans la mise en place de groupes de niveau au collège en français et en mathématiques. La ministre de l'Éducation nationale souhaite finalement préserver des moments en classe entière. Cette réforme très controversée, voulue par Gabriel Attal, est prévue dès la rentrée prochaine dans les classes de 6e et de 5e. Enfin, en Espagne, un trafic de fausses œuvres de l'artiste britannique Banksy a été démantelé. Les œuvres étaient vendues en Catalogne, mais aussi à l'étranger, et notamment aux États-Unis, pour des prix allant jusqu'à 1500 euros. La police catalane a procédé à l'interpellation de 4 personnes.
Banksy, le roi du street art. Merci beaucoup, Maureen Vidal. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de Banksy dans les rues de Marseille. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé...
Il y a ça donnait à sa pratique favorite.
Marseille, nous y venons avec cette phrase d'abord. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Les mots sont forts et ils sont surtout signés Isabelle Faure, la chef de la division de lutte contre le crime organisé du parquet de Marseille. Un avertissement solennel qui a glacé la commission sénatoriale sur le narcotrafic qui se tenait à Paris en ce milieu de semaine. 4 magistrats marseillais en première ligne dans la lutte contre le trafic de drogue qui disent leurs préoccupations. Et le mot est faible. Michael Dos Santos, et on en discute.
Et la première prise de parole, le constat est alarmant.
C'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable sur le plan des moyens financiers, humains, technologiques et même législatifs.
Le président du tribunal judiciaire de Marseille craint que l'État de droit ne se délite à court terme. Olivier Laurent exige un plan d'urgence.
Le narco-banditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène. Il est indispensable de mettre un plan Marshall en œuvre pour la lutte contre le narcotrafic.
En 2023, la guerre de la drogue a fait environ 50 morts à Marseille. Parmi les tueurs ou auteurs de tentatives d'assassinat, 62% d'entre eux avaient moins de 21 ans. Des jeunes appelés les jobbers qui sont parfois recrutés en dehors de la centaine de points de deal de la cité phocéenne.
Ce qu'on appelle les jobbers, qui viennent donc de la France entière, mais également sur une ville comme Marseille, un recrutement très important d'étrangers en situation irrégulière.
Comme de nombreux trafiquants de drogue, les jobbers terminent leur parcours à la prison des Baumettes, un centre pénitentiaire où le taux d'occupation est de 188% et où les règlements de compte se poursuivent.
Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Nous avons eu un assassinat et une tentative d'assassinat il y a une dizaine de jours. Il faudrait qu'on ait des prisons de haute sécurité comme ça existe dans d'autres pays, parce que sinon, à l'État, on est un petit peu dépassé.
Chiffre inédit dans le pays, plus de 20% de l'activité juridictionnelle concerne le trafic de drogue.
Et pour évoquer cette thématique avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir par direct vidéo Marc Lamola. Bonsoir monsieur, vous êtes ancien policier. Les Français, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, connaissent votre visage. Vous êtes auteur désormais, votre dernier ouvrage, on va le voir, Extrême Onction, publié chez Sud-Arène. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous avez été policier pendant une trentaine d'années à Paris, mais notamment aussi, surtout à la BAC, à la CRIM, dans les quartiers nord de Marseille. Merci donc d'être avec nous. Vous avez vu comme nous ce reportage. J'imagine que vous avez suivi un petit peu dans la presse ces différentes auditions. Je reprends certains mots concernant Marseille, ville décrite comme l'épicentre du phénomène national qui a basculé comme aucune autre ville dans le narcotrafic, au point de devenir, donc ce terme est osé, mais il a été lancé, une narco-ville. Est-ce que vous-même, Marc Lamola, vous utiliseriez les mêmes termes, vous prononceriez les mêmes phrases aujourd'hui pour décrire Marseille ?
Oh oui, évidemment que j'utiliserai les mêmes termes. Et puis, pour revenir sur les propos donc, de la magistrate en disant que nous étions en train de perdre la guerre, moi je dirais que nous l'avons perdue déjà depuis plus de 20 ans, la guerre. Alors j'ai un peu l'impression que ces gens-là découvrent ce matin en ouvrant leur volet que Marseille est en proie au narcotrafic, au règlement de compte, à une criminalité, une délinquance et une immigration totalement incontrôlée et incontrôlable. Il y a 20 ans qu'on est dans cette situation. Je connais bien Marseille, j'y suis né, j'y ai grandi, j'ai travaillé dans les quartiers nord, j'ai même grandi dans les quartiers nord, j'ai vu la paupérisation, la lente paupérisation des cités et la montée exponentielle de la criminalité et de la violence. Donc on a tout abandonné, on a tout lâché, on a tout laissé à l'abandon, et on est aujourd'hui dans cette situation-là. Alors c'est un peu, je dirais, je rigonne d'entendre des magistrats qui pendant des années ont été plutôt laxistes. Aujourd'hui, de hurler au secours et en appelant à créer des prisons de haute sécurité, des choses qui, à mon sens, n'auront jamais lieu dans notre pays, parce que c'est inimaginable. C'est pas que je sois opposé, mais je pense que c'est pas réalisable.
Voilà. Marc Lamola, pardon, je vous interromps, mais le constat que vous faites est il est évidemment très éclairé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Que Marseille soit en proie à une délinquance exponentielle, à des trafics, à des règlements de compte, etc. Tout ça, là, chacun l'a compris. Personnellement, je n'avais jamais entendu des observateurs aussi éclairés que ces magistrats marseillais dire, en revanche, et on l'a écrit en bas de l'écran, la guerre est perdue. Ça, je ne l'avais jamais entendu de la bouche de personnes qui sont en première ligne dans cette lutte contre le trafic de drogue. La guerre, elle est perdue. C'est terrible de dire ça.
C'est ce que je vous disais au début de mon propos. Oui, nous l'avons perdu, mais il y a 20 ans. Aujourd'hui, on réalise, ces gens-là réalisent, alors à bon escient, évidemment,
que la guerre... Qu'est-ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans, alors ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans ?
Ah ben, c'est surtout ce qui n'aurait pas dû être fait, c'est-à-dire l'abandon de ces cités, l'abandon d'une police efficace et républicaine, la fonte des effectifs, et puis d'autres stratégies et des volontés de sécurité beaucoup plus adaptées, beaucoup plus efficaces à celles qui ont été établies. Le début de la fin de tout cela, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la place Beauvau, avec la fin de la fin de la police de proximité et tout ce qui en a suivi, avec des stratégies de matraquage du consommateur, plutôt que de privilégier le renseignement criminel et l'investigation. Ce sont les deux seules méthodes pour lutter efficacement contre les trafics. Matraquer le client, évidemment, il faut le faire, mais ça n'a aucun intérêt et aucune efficacité réelle sur le trafic. On a abandonné cela, on a choisi d'autres stratégies qui, aujourd'hui, nous ont conduit à cette situation qui est, à mon sens... Moi, je dis que Marseille est perdue, hein, je connais très bien cette ville. Marseille est totalement perdu.
C'est terrible, mais c'est votre constat et évidemment on l'entend. Je voudrais qu'on entende le président du tribunal judiciaire de Marseille qui confirmait donc que c'est à Marseille que le trafic de drogue prend son expression la plus violente et puis on continue d'en discuter.
La ville de Marseille est incontestablement le territoire au sein duquel les conséquences du narco-banditisme se manifestent dans leur expression la plus violente en provoquant des troubles à l'ordre public conséquents, en blessant, voire en tuant des victimes dites collatérales et en altérant considérablement le mode de vie des habitants des quartiers. En d'autres termes, le narco-banditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène qui abîme jour après jour, année après année, le tissu social. L'État semble mener une guerre asymétrique contre le narco-banditisme, avec cette spécificité que dans ce cas précis, c'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable sur le plan des moyens financiers, humains, technologiques, et même législatif.
Marseille s'enfonce, la France s'enfonce, Marc Lamola, le procureur qu'on a entendu dans le sujet également parler de mexicanisation de Marseille. Ça veut dire quoi exactement ?
Bon, ça veut dire qu'on ne gère plus rien, ça veut dire que la police essaie de faire ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose. Mes collègues ne manquent pas de volonté et de courage, croyez-moi, parce que pour entrer aujourd'hui dans les cités qui sont d'ailleurs à l'écran, croyez-moi qu'il faut avoir énormément de courage, et je salue la bravoure et le courage de mes collègues, notamment des brigades anticriminalité, et même de l'ensemble des policiers. Voilà, c'est une mexicanisation, parce qu'aujourd'hui, c'est réellement les narcotrafiquants qui ont pris le pouvoir. C'est le terme est tout à fait adapté. Moi, ce qui me fait, ce qui me surprend, c'est que ces propos-là, je les tiens. Alors, mes propos, évidemment, n'engagent que moi. Depuis plus de 10 ans, voire même 20 ans, lorsque j'étais encore en activité, on faisait remonter ces informations-là. On disait, on ne va plus pouvoir entrer dans les cités. Les armes vont être en vente libre et on va se faire, excusez-moi le terme, mais calibrer. Et c'est ce qui aujourd'hui arrive. Aujourd'hui arrive.
Quel message on envoie justement ? Vous venez de rendre hommage à tous ces policiers et dont vous avez fait partie, évidemment, pendant de nombreuses années, en disant le courage qu'ils ont d'y aller. Mais quand on dit que la guerre est perdue, quel message on envoie à la police qui se bat tous les jours également dans ces quartiers ? On ne peut pas dire des choses pareilles.
Mais mes collègues sont tout à fait en accord avec moi. Ils y vont parce qu'ils sont, malgré tout, ils ont cette motivation, mais ils savent très bien que le combat est perdu. Ils connaissent ces quartiers, ils y travaillent, ils y sont tous les jours, et même pas que les quartiers nord, hein, parce qu'aujourd'hui, le nord a gangréné le centre et le sud. Marseille est gangrénée dans sa totalité. Le message que je leur envoie, ils le connaissent. Hein, ils ne vont pas être choqués de mon propos ce soir. Hein. Ma femme est encore en activité, et tous les soirs, elle me raconte ce qu'elle vit au quotidien. Donc, le constat, ils le font aussi bien que moi.
Marc Lamola, si vous êtes d'accord, je vais faire un petit tour de plateau et vous restez avec nous en qualité de grand témoin et vous faites signe, vous intervenez quand vous voulez dans le débat. Bertrand Cavalier, général de gendarmerie, comme chacun le sait, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre pendant une dizaine de minutes avec Marc Lamola.
Ce que dit M. Marc Lamola sur ce qui se passe depuis 20-30 ans, je le vivais également sur le terrain quand j'étais à Lyon. Bon, les constats que faisaient les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, sur le fait qu'on était en train de perdre des parties du territoire, que l'État devenait de plus en plus un État factice, un État qui n'assumait plus sa fonction régalienne pour des raisons idéologiques, d'une part, et deuxièmement, parce que vous avez une partie de la haute administration qui jouait sa carrière et qui refusait de transmettre la réalité de la situation. Et donc, cet abandon a provoqué... ce à quoi on assiste aujourd'hui. Sachant que, alors moi je ne crois pas que la guerre est perdue, je dis que la confrontation est inévitable, mais il faut une volonté à tous les niveaux. Alors, s'agissant des magistrats...
Quelle confrontation ? C'est-à-dire que vous vous dites, pour sortir de cet état de fait, il faut sortir de l'état de droit, en fait.
Non, il ne faut pas sortir de l'état de droit. S'agissant de l'état de droit, il faut simplifier les procédures. Quand je menais des enquêtes en matière de démantèlement de réseaux, de trafiquants, c'est un an d'enquête.
Non, mais il faut une loi d'exception.
Déjà qu'on simplifie. Deuxièmement, comment voulez-vous lutter contre le trafic lorsque vous êtes dans un pays qui ne maîtrise même pas les flux, où n'importe qui peut arriver, où l'immigration, c'est une déferlante, sachant qu'une partie quand même du trafic est pris en compte par des gens d'origine étrangère. Quand vous voyez que maintenant, des Afghans qui sont réfugiés politiques qui ont pris la main...
Ils sont parfois soumis par ces mêmes trafiquants.
Non, non, attendez, les Afghans, ils sont en train de prendre le lead sur tout le trafic de stupéfiants au nord de Paris et d'une partie de la Grande Couronne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la lâcheté des dirigeants à tout niveau. Parce que les praticiens disaient ce qui se passait. Et une partie de la magistrature, bien sûr... idéologisé, comme l'on sait.
Marc Lamola qui disait ce sont ces mêmes magistrats qui crient au loup et qui ont laissé faire pendant des années. Éric Tegner.
Oui, moi je trouvais que c'était globalement un sketch. Et avant de venir ici, j'ai appelé un peu des contacts policiers qui travaillent justement dans les quartiers nord, qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Ils m'ont dit, mais en fait, il n'y a pas de guerre. Pour avoir une guerre, il faut bien avoir quelqu'un en face. Et aujourd'hui, en fait, on ne nous donne pas les moyens de le faire. Je vais vous donner des exemples très concrets. Il y a une nouvelle commissaire dans les quartiers nord aujourd'hui. Sa logique, c'est le pas de vague. Donc aujourd'hui, la cité de la Castellane, par exemple, les policiers ne peuvent plus y aller sans avoir trois voitures. Avant, on pouvait y aller juste avec une seule voiture et ils savent très bien qu'ils y arrivent. En fait, ça a beau être dangereux, ils le veulent, ils sont spécialisés là-dedans. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour avoir trois voitures? Ils y vont beaucoup moins. L'autre élément, par exemple, c'est que lorsque vous mettez le gyrophare pour arrêter une voiture, eh bien, automatiquement, moi, ce qu'on me rapporte à chaque fois, c'est que la radio, elle leur dit « cessez ». C'est proscrit aujourd'hui de faire des chasses. Voilà ce qui se passe. Ils nous parlent énormément de désarmement.
Vous avez des piétons aux alentours,
vous pouvez renverser des gens. À Marseille, au mois de décembre, quand j'y étais, j'ai rencontré un armurier qui me disait que lui, il se sentait obligé aujourd'hui de prêter, par exemple, des jumelles infrarouges à des policiers. Les policiers qui m'expliquent qu'ils sont obligés de fabriquer eux-mêmes des béliers. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Parce que les commissaires, il faut quand même le dire, moi je soutiens la police, mais aujourd'hui on a plus en plus de commissaires, notamment à Marseille, où il y a une rotation tous les 3 ans, où en fait c'est un lieu de passage. Donc à aucun moment donné, ils veulent prendre un risque. Parce que derrière aussi, ils le disent, cette économie-là, en fait, elle est réinjectée d'ailleurs à la fin dans le PIB. Moi pareil, on parle du fait qu'à Marseille, il y a par exemple des concessionnaires moto de très grandes marques que je ne citerai pas ici, qui acceptent du cash jusqu'à 30 000 euros.
On va voir, magistrats ont dénoncé une forme de complaisance, également administrative. On l'entendra dans un instant. Mais juste Marc Lamola, puisque vous parliez de ces magistrats, vous diriez, c'est dur hein, de le dire comme ça, mais je le formule comme une question. Évidemment, la situation à Marseille, pour vous, c'est d'abord, surtout, l'échec de la justice.
c'est aussi l'échec de la justice. Voilà, les magistrats n'ont jamais caché leur acquaintance avec l'extrême gauche et la culture de l'excuse. On en est là aujourd'hui. Alors après, il y a toute une chaîne. Évidemment, il n'y a pas de place en prison, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent, on est bien d'accord. Hein, que ce soit dans les commissariats, que ce soit au palais de justice ou en prison, il n'y a plus d'argent. Donc, j'enfonce une porte ouverte en disant que les magistrats, et je l'assume aujourd'hui, de dire que la magistrature et notamment les magistrats du siège, les juges, donc sont plutôt et ont été plutôt laxistes. Et du temps où j'étais en activité, on le vivait au quotidien avec ce qu'on appelle la culture de l'excuse. On trouve toujours des excuses à ces gens-là. Donc évidemment, ils ont aujourd'hui une impunité. On a dévaluer l'autorité de la police de plusieurs manières. Hein. Et aujourd'hui, on a évidemment cette situation-là. Oui, pour répondre à votre question, oui, je pense que c'est aussi la faute de la magistrature par son laxisme et sa vision plutôt angélique d'une situation qui aujourd'hui est totalement ingérable et hyper, hyper dangereuse. Marseille est une ville très, très dangereuse.
Régis Le Sommier.
Non, ce qui est terrible d'entendre dans les propos de monsieur, c'est que là, on entend que d'un côté, il n'y a pas d'argent, alors que de l'autre côté, il y en a énormément. Et moi, je voudrais rajouter un élément qui n'est souvent pas toujours. Marseille, c'est pas nouveau. Hein. On évoquait l'époque de la French Connection en coulisses.
Oui, mais ce qui est nouveau, c'est la violence qui accompagne ce trafic.
La violence.
Parce que justement, il y a eu Émile Diaz de la French Connection qui a parlé à l'Assemblée, qui était auditionné à l'Assemblée il y a une quinzaine de jours. Il disait, nous, à notre époque, il y avait une sorte de code, de règles, on ne touchait pas la police, il n'y avait pas de phénomènes collatéraux.
Mais on n'était pas aussi dans le même marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une explosion de la consommation de drogue dans notre pays, dans tous les pays occidentaux en général. Et que cette explosion et cette... vulgarisation de drogue qui, il y a 10, 20 ans, était inatteignable. Aujourd'hui, elles sont,
il y a
libre cours et que ça génère 3,5 milliards d'économies parallèles à l'année et que ça structure des sociétés parallèles comme la ville de Marseille malheureusement est en train de le devenir, c'est-à-dire on est narco-ville ou narco-État. Alors on entend mexicanisation, on n'est pas encore avec les têtes coupées du grand Grival retrouvées par terre avec un écriteau.
Non, mais on n'en est pas loin avec des gamins qui se font rafaler la Kalachnikov. Hein.
Voilà, et des techniques comme le gouvernement mexicain l'avait fait, c'est-à-dire s'appuyer sur un cartel pour éliminer les autres et finir par mais tout ça demande de la stratégie et j'imagine que au niveau des autorités on y réfléchit.
Je vous donne la parole de l'autre côté de la table et je voudrais vraiment agrémenter ce débat de différents extraits parce que ce qui a été dit dans cette commission hier est proprement hallucinant. Écoutez le procureur qui parle du rajeunissement des délinquants, le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessène qui alerte aussi devant le Sénat sur un autre phénomène qui touche le narcotrafic, c'est non seulement son rajeunissement mais sa féminisation également, regardez.
Un phénomène très inquiétant qui démontre là aussi une dérive mafieuse, une féminisation. Jusqu'à présent, les femmes étaient, on va dire, cantonnées à des rôles de nourrice, de drogue ou d'argent ou d'armes. Désormais, on constate que... Alors, on n'a pas encore eu de femmes dont on a la preuve qu'elles sont montées directement, mais qui ont commandité, qui ont recruté des équipes, qui ont donné le go. Et là, ça me fait penser un petit peu à la dérive qu'avait connue la Camorra napolitaine dans les années 2005.
Augmentation des femmes également impliquées. Je notais 4 mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes sur l'année 2023, donc concernant des femmes et puis les jeunes de 18 ans ou moins, dont le métier est d'être pleureur à gages, dont on découvre également les profils régulièrement ces temps-ci. Nous en sommes là. Nathan, oui.
Il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure, c'est le mot de mafia. À mon avis,
ah oui, mais on l'a tous en tête. Bien sûr, il y a deux mafias qui règnent sur Marseille, la DZ Mafia et la Yoda Mafia.
Oui, bien sûr, mais même plus généralement, on a affaire à un phénomène mafieux. Ça veut dire, quand on parle de guerre asymétrique, c'est ça, fondamentalement. Et une mafia, que ce soit en Italie, que ce soit en Amérique du Sud, ça ne se combat pas par des moyens habituels. Sinon, c'est un travail de Sisyphe. C'est des policiers qui vont démanteler un point de deal. Le lendemain matin, il est reconstitué. Vous prenez des gens, vous les mettez en prison. Ils peuvent tout à fait continuer à diriger leur trafic de
deal. Surtout au Beaumet, où apparemment depuis, ça se passe plutôt bien pour les dealers.
Oui, c'est connu tout ça. Enfin, que vraiment, on peut. Enfin, c'est pas du tout des remèdes en quelque sorte à la situation.
Bien sûr.
Donc, je filerai la métaphore médicale qui était employée dans votre premier sujet. C'est que quand vous avez quelqu'un qui est malade, vous n'allez pas seulement donner des médicaments pour guérir ses symptômes, vous n'allez pas seulement lui donner du doliprane s'il a un cancer, vous essayez de faire un diagnostic et de guérir le mal à la racine. Alors face à cela, tout à l'heure,
c'est trop tard,
Marc Lamola parlait de la paupérisation des quartiers nord de Marseille sur les 40 dernières années qu'il avait constaté, et ça à mon avis c'est aussi un élément important de diagnostic. Il y a un deuxième élément de diagnostic, c'est de voir aussi que, en quelque sorte, cette violence, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est vrai, elle est normale. Ça veut dire, quand vous regardez les masses d'argent qui sont brassées par ces mafias, c'est tout à fait logique qu'elles prennent une autorité qui imite l'autorité étatique. Ça veut dire qu'ils se chargent de faire la police dans certains quartiers, qu'ils se chargent en quelque sorte de gérer l'ascension sociale des jeunes, de remplacer la justice sociale, c'est ça, quand vous de recrutez quelqu'un qui a 15 ans et que vous lui donnez 3 000 euros par mois, c'est ça.
L'État.
Voilà. Et puis, il y a ce dernier sujet du diagnostic qui est central, c'est celui que disait Régis. Je suis désolé, nous sommes un des plus grands pays consommateurs d'Europe de drogue. Ce n'est pas en durcissant la législation, ce n'est pas en mettant la CRS 8 ou n'importe quoi dans les cités, ce n'est pas même en mettant des amendes supplémentaires aux consommateurs qu'on va régler le sujet. Donc je pense qu'il faut un vrai débat global, démocratique, sur la place des drogues dans notre
mais
société.
Mais sachant que la guerre est perdue, ajouter du débat au débat, il y a un moment, il faudrait peut-être passer à l'action aussi. Isabelle Couder, encore un extrait juste perdue. Et je vous rends tout de suite la parole. Isabelle Couder qui détaille avec minutie l'organisation de ces réseaux. Elle alerte notamment sur la grande, puisque vous parliez d'argent et de ces mannes, ces millions et des millions qui sont brassés quasiment au quotidien par ceux qui sont en haut de l'échelle.
La grande aisance financière de ces délinquants du haut du spectre, qui n'ont pas payé un seul euro d'impôt en France, est évidente lors de leur interpellation, lorsqu'ils apparaissent en capacité de rémunérer plusieurs avocats, et non des moindres, pour leur défense. La corrélation entre l'absence de justification de ressources légales et la capacité de rémunérer très cher sa défense interroge.
Alors un petit mot Eric, parce que vous me disiez hors antenne que vous avez visité cette prison des Beaumet il y a peu de temps, et c'est vrai que l'autre problème, ce sont ces têtes de réseau qui gèrent tranquillement depuis les prisons où ils sont incarcérés, ou alors depuis l'étranger où là c'est encore pire puisqu'ils sont absolument imprenables.
Oui, j'étais en tout début d'année, et donc les Beaumet, vous savez, c'est en train d'être justement agrandi.
Marc Lamola pourrait nous en parler bien sûr aussi.
Il avait annoncé. Et pour vous dire, effectivement, c'est pas un fantasme, hein. Ils sont excellemment bien dans ces prisons, c'est très propre. Et quand je parlais à la directrice, elle me disait que tout se passe bien parce que ils peuvent gérer parfaitement aujourd'hui leur trafic et ils savent que si ça commence à être le bazar, on va les transférer dans d'autres prisons. Or, ils veulent continuer à avoir leurs visites. Les visites sont très peu filtrées. On dit même chez les policiers qu'il y a des prostituées qui arrivent à rentrer dans ces prisons des Beaumet. Moi, je parlais aussi à des gardiens qui me disaient, je leur posais la question, est-ce que vous savez aujourd'hui qui est radicalisé dans la prison? Parce qu'il y a ce phénomène. Ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas les fiches sur ces différentes personnes parce qu'on sait que c'est extrêmement compartimenté, donc c'est un problème. Et je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Nathan sur la mafia. Il y a aussi la responsabilité de certains élus. Aujourd'hui, tout le monde sait chez les policiers des quartiers nord, par exemple, que sur une cité qui s'appelle la cité de campagne Névèque, sur la demande des dealers qui parfois se cachent derrière ces fameux comités de quartier, elle a fait installer tout simplement des dodanes. Et donc, qu'est-ce qui a été l'impact direct? C'est que les policiers, lorsqu'ils viennent pour essayer de faire une interpellation, eh bien, ils se retrouvent avec des dodanes. Il y en a à peu près tous les 15 mètres. Et donc, ça laisse le temps, justement, ça laisse le temps aux dealers de partir. Et ça aussi, ce phénomène de la corruption chez les élus, faudra à un moment donné taper dedans.
Alors, très important. Merci pour la transition. On va entendre le procureur, procureur de la République, qui nous parle de l'administration pénitentiaire, de la police, qui ne sont pas seulement démunis face au réseau de trafiquants. Elles seraient parfois complices par le biais de la corruption. Là aussi, c'est une petite bombe qui a été lancée face à la commission. Marc Lamola, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui va être dit.
Il faut être clair, la bataille est perdue, sans stigmatiser la profession avec l'administration pénitentiaire. On sait que téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures.
Marc Lamola, il y a tellement d'argent, tout le monde est corruptible finalement.
Oh, tout le monde, non, Dieu merci, pas tout le monde. Maintenant, il est vrai qu'au niveau des maisons d'arrêt, notamment des baumettes, il est vrai que le métier est tellement devenu tellement difficile que c'est une forme, une façon d'acheter un peu la paix sociale, parce qu'autrement, les surveillants vont au conflit et au conflit physique de manière quotidienne. Donc, voilà, ils sont obligés, parce que l'administration ne leur donne pas les moyens aussi d'être présent, d'être efficace. Il manque de personnel, c'est toujours pareil, éternel problème. Donc oui, je ne suis pas sans savoir que ça se fait, oui. Après, non, tout le monde n'est pas corruptible, non. Après, en ce qui concerne, j'ai découvert ces derniers jours certains collègues, certains policiers qui eux, le seraient, monnayeraient des renseignements. Bon, là, les bras m'en tombent, hein, moi, c'est affligeant. Après, l'IGPN fait son travail, mais ça, si ça existe, et je voilà, je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là, mais ça, là, les bras m'en tombent. Voilà. En ce qui concerne, je reviens à la prison, notamment aux baumettes, oui, les baumettes, malheureusement, c'est tout le monde le sait, ça fonctionne aussi comme ça. Alors, pas tous les surveillants, entendons-nous bien, hein, mais voilà, je me répète, c'est une façon pour eux aussi d'avoir une certaine paix sociale, parce qu'autrement, c'est la bagarre. Hein,
On imagine aussi les conditions de travail pour ces surveillants, les salaires qui ne sont pas forcément toujours exceptionnels et un travail qui est extrêmement ingrat aussi. On sait que c'est un métier qui est en pénurie et que les prisons sont dans un état de surpopulation totale et que c'est un enfer d'y travailler, a priori, pour ces fonctionnaires également. Marseille est-elle perdue ? Il semblerait que la réponse soit oui, en tout cas pour ces magistrats qui connaissent bien la cité phocéenne. Karima, Johan, qu'on n'a pas encore entendu.
Ben, c'est vraiment des conclusions absolument choc. Et moi, je me dis, j'espère qu'on retire certaines leçons de Marseille, parce qu'en ce moment, on dit que peut-être Marseille est perdue. Mais il faut penser aussi à toutes ces villes moyennes aujourd'hui où on peut laisser justement courir ce fameux trafic de drogue et ce qui vient aussi tout autour. Parce que moi, je pense aux victimes.
On voit ce qui se passe à Nîmes en ce moment. Voilà. Et c'est Rudy Manat d'Alliance Sud qui nous disait « Nîmes se marseillise ». Hier, il n'y a pas longtemps, avec cette maternelle également gangrénée par les dealers. Et pareil, ça s'étend aux agglomérations, aux territoires.
S'il n'y a pas de barrière, ben c'est certain que ça continue, comme on dit, à s'étendre. Et moi, je m'inquiète non seulement, bien sûr, je pense à toutes les victimes collatérales de ces trafics. Quand on sait que maintenant, justement, les trafiquants ne s'attaquent pas simplement entre eux, font fi des populations autour, il n'y a aucun code, finalement. Il faut dire, bon, hein, quand on se met à me parler de code d'honneur dans le passé...
C'était les années 70, oui.
Ben, en tout cas, on peut quand même en débattre, mais je veux dire, aujourd'hui, si on parle de code, il n'y a rien de tout ça. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le fait d'aller recruter toute la question des mineurs, parce qu'en ce moment, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Il y a certains mineurs, dès le départ, finalement, on fauche un peu leur vie, hein, parce que ça se retrouve finalement, ça se retourne contre des mineurs qui vont se retrouver éventuellement soit en prison, soit littéralement qui vont être blessés ou ils peuvent littéralement mourir aussi. Donc, moi, je pense que les leçons à tirer, c'est aussi d'empêcher, finalement, que tout ça s'étende un petit peu partout à travers le pays.
Johan, avant de vous entendre, puisque Karima l'a soulevé, ces dommages collatéraux, ces balles perdues nous font penser, bien sûr, à ce qui s'est passé le 10 septembre dernier à Marseille, Sokaina, 16 ans, qui décédait d'une balle perdue pendant un règlement de compte alors qu'elle était tranquillement en train de lire dans sa chambre. À cette époque, nous avons interrogé sa maman qui a témoigné sa détresse sur nos antennes. C'était avec Sandra Buisson. Écoutez, souvenez-vous.
Ils ont enlevé la vie de ma fille. Ils, je ne sais pas, c'est qui. C'est les bandits. C'est les trafiquants. Oui, je pars d'ici. Je ne peux pas continuer ma vie ici. Je ne peux pas. La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France. Ma fille s'est fait tuer dans sa chambre. Je ne peux pas imaginer ça. Même dans les guerres, j'ai jamais vu ça. La tête explosée.
Johan, c'est ça la réalité de ces quartiers. Comment on vit quand on n'est plus en sécurité jusque chez soi ? C'est aussi le problème insoluble de cette narcoville, comme elle est décrite par les magistrats.
Oui, c'est un exemple supplémentaire qui montre que l'État a perdu le contrôle de certains quartiers, d'une partie importante, même maintenant désormais, de cette ville. Effectivement, il y a plusieurs choses qui doivent nous inquiéter. Et quand le gouvernement, et notamment Gérald Darmanin, dit que la lutte contre les stupéfiants est la priorité du gouvernement, non, je n'ai pas le sentiment que ce soit vrai, sinon nous n'en serions pas là. Et il y a des mesures quand même à prendre. La maîtrise des frontières, encore une fois, ça semble être un enjeu essentiel dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, parce que la cocaïne, elle n'est pas produite en France, elle est produite notamment en Amérique du Sud, et elle arrive dans les ports français, dans les ports européens.
Colombie, au Pérou.
Donc il y a un véritable enjeu dans le contrôle des frontières, le contrôle des frontières pour l'immigration aussi, parce qu'on sait qu'une partie de ces trafiquants se servent notamment des mineurs isolés pour jouer le rôle de...
d'abord, et vous le savez, parce qu'on a vu ces sujets ensemble, Johan, ils tiennent les plus grandes ports d'Europe, Anvers, Hambourg, Le Havre.
Précisément, c'est ce que vous allez vous dire. Il y a la maîtrise des frontières et il y a la lutte contre la corruption qui est quelque chose de primordial, parce que les dockers, notamment, sont corrompus. Ces trafics... Une partie de ces dockers, naturellement, sont corrompus parce que ces trafics génèrent une telle manne financière qu'il est évident qu'ils ont des moyens de pression absolument colossaux, et même les trafiquants menacent parfois de mort les dockers qui refuseraient de collaborer avec eux pour laisser passer la drogue dans les containers, etc. Donc il est évident que la maîtrise des frontières et la lutte contre la corruption sont déjà deux éléments extrêmement importants, en plus de la lutte qui se fait au jour le jour avec les policiers dans ces quartiers marseillais.
Et ces citoyens, notamment ceux qui sont aux prises directes avec ces trafiquants, qui... Comment peuvent-ils encore croire en l'État, Nathan ?
Oui, moi je suis désolé, il y a un aspect qui me dérange, où je trouve que le débat sur cette question est très très hypocrite.
C'est-à-dire ?
Et où il y a un immense décalage entre ce qu'on dit et l'état réel de la chose. C'est-à-dire que là, on nous dit massivement qu'il faut lutter contre le trafic de drogue, lutter à mort, que ça détruit des villes, etc. Enfin, excusez-moi, mais on sait quand même, je reviens sur la question de la consommation, que non seulement la consommation est importante, qu'elle est présente dans toutes les classes sociales, vraiment toutes, y compris la classe politique, c'est pas un scoop de dire ça, que tout le monde en prend, au sens où des gens dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux professionnels, y compris les élites, et beaucoup les élites en consomment, que vous avez un média qui fait une interview, et c'est pas une critique, c'est un constat, qui s'appelle l'interview sandwich, qui est très apprécié, où vous avez des personnalités du monde culturel qui viennent raconter leur consommation de sandwich, c'est pas de sandwich dont ils parlent. Je veux dire, c'est un exemple que je donne.
Je sais ce que je veux dire par là. C'est
très connu sur
Internet.
Sur Internet, mais c'est très très connu et c'est très mainstream en quelque sorte.
Okay.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un décalage immense entre ce dont tout le monde, si vous voulez, ce que tout le monde accepte comme un fait accompli, à savoir qu'il y a une consommation énorme et qu'on ne va pas changer ça. Il faut pas mentir là-dessus. On ne fera pas disparaître le trafic de drogue massif en France parce qu'il y a une consommation de drogue massive en France. Et la réalité. C'est pourquoi, moi, je dis vraiment, il me semble que, en dehors de l'aspect sécuritaire, il faut ouvrir un débat sur quelle vision voulons-nous de la France. On a une loi aujourd'hui qui est dans une sorte, si vous voulez, d'hygiénisme absolu, en nous disant, et une loi dont, à laquelle personne ne croit. Ça veut dire qu'il y a aucun politique sérieux qui pense qu'on va abolir la drogue. Ça n'a pas de sens d'imaginer ça. Et donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut réfléchir sur cette question, essayer d'avoir peut-être une législation qui est plus souple sur cette matière pour empêcher des mafias de se générer dans le plus grand silence et dans l'opacité la plus totale de remplacer la puissance de l'État. Ça, à mon avis, ce serait plus sincère. Vous parlez de la lâcheté des élus. Je pense qu'il y a une lâcheté intellectuelle des élus sur cette question.
Régis, avant de retourner voir Marc Lamola, et puis bon, Général, je viendrai vers vous aussi.
Je voulais dire un mot. On parlait de l'Amérique du Sud, on a évoqué
on va voir un sujet Mexique, en Équateur dans 3 minutes.
Voilà, l'Équateur, etc. Partout, les trafics de drogue s'étendent. Il y a un seul pays qui a réussi à venir à bout.
Salvador.
Un président, Nayib Bukele. Il a été réélu à 84% des voix en février, là. Il a tout éradiqué. Pourtant, le Salvador...
Salvador, non, c'est environ 80 000 membres de gangs qui ont été enfermés dans une prison toute neuve, haute sécurité, voilà, où ils sont réduits à l'état d'animaux. Il n'y a pas d'autre mot. Je décris le réel. Parmi ces 80 000 détenus qui viennent tous de gangs, qui sont arrêtés en dépit de tout droit, puisqu'il suffit d'avoir un tatouage pour être assimilé à un gang et vous êtes arrêté, il y a environ 10% qui est innocent, officiellement reconnu comme des dommages collatéraux, comme une marge d'erreur par le gouvernement. Mais Marc Lamola, est-ce que la solution à la salvadorienne, c'est le seul moyen de venir à bout du trafic et surtout de ce qui gangrène la ville de Marseille? Parce que ça paraît quand même extrême et ça serait déchirant de voir notre pays en arriver là.
Certainement pas, vous voyez, d'ailleurs, je souris. Mmh. Non, c'est pas du tout applicable. Voilà, il y a d'autres domaines. Alors, j'écoute avec beaucoup d'attention, n'interprétez pas l'ensemble des intervenants, mais on n'est plus au temps des palabres. Il faut agir, il faut agir. Alors, agir, je ne vais pas vous dire aujourd'hui comment, on n'aura pas le temps, mais il faut, évidemment, on n'a pas évoqué les parents, la quasi-totalité des gens et des jeunes, pas les têtes de réseau, mais les gens, les petites mains, sont mineurs. Voilà, il faut aussi responsabiliser les parents. Depuis des années, je réclame et je l'ai écrit.
Mais ces gamins, ils ont échappé à leurs parents depuis bien longtemps, Marc Molla.
Pardon ?
Ces gamins, s'il tant est que ce soit encore des gamins, ils ont échappé à leurs parents depuis bien longtemps.
Voilà, ils ont échappé à leurs parents, mais alors s'ils ont échappé à leurs parents, il faut bien qu'il y ait une autorité, et celle de l'État
c'est
aujourd'hui...
C'est les parents de mafia, l'autorité.
De poids. Donc, depuis des années, je demande, moi, et la modification de l'ordonnance de 45. Personne n'évoque ce sujet-là. Personne ne veut modifier l'ordonnance de 1945. Comme vous le disiez, le mineur de 2024 n'est pas celui de 1945. Ah, et aujourd'hui, s'il a échappé à la première autorité à laquelle il doit obéir, à savoir celle de ses parents, il faut bien qu'il y ait une autorité. Aujourd'hui, ils sont quasiment impunis. Voilà, il y a aussi ce phénomène-là. Qu'il faut prendre en considération.
Elle a été supprimée, l'ordonnance de 45
Elle a été maintes fois réformée et elle a été effectivement supprimée. Oui.
Oui, mais elle a été prolongée, en tout cas, c'est
d'une manière différente. L'ordonnance de 45 en tant que
texte. Oui, mais il y a un texte qui a deux ans. Hein, qui est...
Je voudrais qu'on entende un dernier extrait, Marc Lamola. Ces règlements de compte entre dealers sont également donc en hausse exponentielle. Je voudrais que vous écoutiez la préfète des Bouches-du-Rhône, l'ancienne préfète des Bouches-du-Rhône plutôt, qui explique l'origine de ces règlements de compte. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a deux énormes mafias qui tiennent Marseille, DZ et Yoda. Et pourquoi, selon elle, depuis un peu plus d'un an, les règlements de compte à l'arme à feu ont augmenté? Ça se serait passé en boîte de nuit en Thaïlande.
La vague de violence, elle ne vient pas spontanément, elle vient parce qu'il y a un conflit qui a commencé pour des raisons apparemment futiles. On nous parle d'un conflit en boîte de nuit en Thaïlande entre les deux principaux trafiquants qui se partageaient d'ailleurs la cité de la Paternelle. Et ça se traduit à des milliers de kilomètres à Marseille par des points de deal qui sont attaqués et des ripostes successives. Il y a toujours une raison. Et ça s'arrête toujours pour une bonne raison qui est aussi le travail judiciaire et le travail policier.
Marc Lamola, un mot là-dessus, parce que tous ces morts pour une embrouille en boîte de nuit entre les chefs d'un gang, ça fait scénario de film.
C'est malheureusement les informations que j'ai, comme Madame la Préfète, c'est tout à fait ça, de futilité dans une boîte de nuit, et puis ça prend une tournure dramatique. Oui, c'est tout à fait ça. Malheureusement, voilà, ça dépend de pas grand-chose.
Ils sont où ces deux hommes-là? Est-ce qu'on sait le chef de la mafia DZ et le chef de la mafia Yoda? Est-ce qu'on sait physiquement où ils se trouvent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'il y a de la surveillance autour de ces hommes-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi impossibles à saisir?
Ils sont impossibles à saisir parce que ils sont souvent en fuite ou parfois incarcérés, mais comme vous le disiez tout à l'heure, depuis leur prison, ils arrivent encore à gérer et à diriger. Mais c'est tellement obscur, c'est tellement très 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 compliqué à résoudre et à mettre des... Alors moi, lorsque j'étais en brigade criminelle, concernant les règlements de compte, on disait qu'on arrivait à élucider policièrement, c'est-à-dire qu'on savait qui c'était, mais on n'avait jamais un élément pour les accrocher. Donc jamais une preuve, mais on connaissait les rancunes et les vengeances entre les groupes, et on savait qui avait fait quoi, mais jamais on avait les moyens de les accrocher. Voilà. Donc c'est un peu la même chose, c'est extrêmement compliqué de les accrocher, de les interpeller, parce que c'est une nébuleuse, c'est très structuré, c'est une PME avec une hiérarchie et puis des moyens de fuite avec énormément d'argent pour fuir, pour se planquer. Voilà.
Là, c'est plus des PME là, c'est le CAC 40.
La police n'a pas les moyens financiers pour réellement être efficace face à cette masse colossale d'argent que gèrent les dealers.
Éric Tegner, général Cavalier, ça fait une bonne grosse quarantaine de minutes qu'on réécoute ce qui s'est dit dans cette commission, qu'on discute ensemble de ce mal qui gangrène Marseille. Et en 40 minutes, je n'ai pas entendu le début d'une solution. Et en effet, tout ce que nous disons et ce que nous entendons depuis qu'on a commencé ce débat nous porte à croire, en effet, comme c'est écrit en bas de notre écran, que la guerre est complètement perdue.
Oui, et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'encore une
général,
fois,
ensuite.
Elle n'a pas commencé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des brigades, par exemple, on appelle les brigades spécialisées de terrain, qui ont été créées il y a une quinzaine d'années pour résoudre ces problèmes, qui connaissent parfaitement les quartiers. La moitié de leur temps, c'est pour aller sur des ronds-points ou sécuriser des manifestations. Voilà ce qui se passe. Il y a un manque de volonté politique. Dans le fond, ce que disait...
Marseille, c'est le plan principal d'Emmanuel Macron.
Ils ne sont pas prêts.
Marseille en grand.
Ils ne sont pas prêts aujourd'hui à payer le coût d'une guerre contre les trafic. Ils ne veulent pas le payer. Donc ils sont simplement dans le pas de vague parce qu'ils manquent de volonté politique. Quand d'ailleurs tout à l'heure Nathan disait, dans le fond il faut accepter que les gens consomment.
Être belliqueux face à Vladimir Poutine. Soyez-le à Marseille.
Quand Nathan disait, dans le fond il faut accepter que les gens consomment de la cocaïne. Moi ce que je note c'est que les partisans du progrès qui sont prêts à chaque fois à être idéalistes là-dessus, ils sont pas prêts à le faire, à aller jusqu'au bout. On a réussi quand même à baisser, et c'est autre chose, la consommation de tabac, la consommation d'alcool. Et il faudrait abandonner aujourd'hui la consommation de cocaïne. Moi je ne crois pas. Aujourd'hui c'est complètement faisable. Et tout à l'heure, je voudrais juste ajouter une petite anecdote, parce qu'on parlait des guerres entre gangs. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des Maghrébins qui installent des points de deal chez, par exemple, oui, exactement. Et donc, ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant.
Général Cavalier, alors, avant de saluer Martin Mola qui pourra éventuellement conclure, je voudrais juste saluer également Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police qui nous regarde. Aujourd'hui, me dit-il, il y a aussi des cabinets d'avocats qui se spécialisent dans les actes de nullité, dans les procédures. Les avocats se spécialisent sur la forme plus
business,
que sur le fond. Il faut, dit-il,
business.
Pour conclure, renforcer c'est la justice et revoir le code de procédure pénale.
Bon, il a raison. Trois choses. La première... sur la débauche ou le côté amoral de certaines élites, notamment artistiques, c'est pas nouveau.
Pas que.
Mais si, c'est non, toutes non, les strates de la société.
Mais je pense pas que la majorité du peuple soit, dans toutes ses différentes composantes, soit à mettre dans cette catégorie.
5 millions de gens.
Deuxièmement, le désenchantement de la jeunesse, c'est un vrai sujet. Comment y répondre? Comment donner une espérance? Comment redonner une transcendance, du sens à la vie, etc. C'est un autre sujet qui relève notamment de l'éducation des philosophes. Je reviens maintenant sur l'aspect guerre contre les narcotrafiquants, sachant qu'il y a eu appel de ces magistrats, mais l'année dernière, la procureure de Paris avait déjà diffusé un signal d'alerte disant qu'aujourd'hui, l'État, notre société est menacée. Donc si elle est menacée, que ferons-nous? Dans ce cas-là, eh bien, on s'adapte, on revoit complètement les dispositions juridiques qui ont été complexifiées, qui sont inopérantes. Donc c'est la modification... du code de procédure pénale, qui est...
Mais est-ce que vous avez vu le début d'une initiative
non,
à
mais,
ce sujet-là?
Non, mais parce que vous avez cette tendance, il y a eu de la lâcheté rationalisée à tout niveau, et vous avez totalement raison, les gens font carrière, ils ne veulent pas s'engager. Comment il y a de véritables guerriers aux différents échelons?
Très bonne
ils
question.
Sont mis dans le placard. Non, et ceux qui veulent y aller, eh bien, sont caricaturés, sont ostracisés, mon jeune ami, etc. C'est ça la réalité. Et ça, quand je dis ça, nombre de policiers et de gendarmes trouveront... à une signification précise à ce que je dis. Bon. Deuxièmement...
Bah, vous alimentez un peu notre thème, hein, la guerre est perdue,
deuxièmement,
général.
On a les capacités, on a tous les moyens pour agir. Mais au travers d'une remise en ordre de l'État, de tout le dispositif étatique, vous avez dit l'immigration, c'est un grand bordel ce pays, permettez-moi l'expression, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne contrôle rien. Donc déjà, avoir des frontières qui soient contrôlées, agir dans la profondeur, on a des unités spécialisées, on a des moyens de détection, on se targue d'être une puissance nucléaire et on va perdre la guerre sur Marseille, mais pas simplement sur Marseille, parce qu'ils sont en train de diffuser, c'est tout un maillage du territoire qui s'organise sous couvert d'épiceries, etc., qui sont des points de deal. Donc si l'État...
Il y a Uber Sheet aussi.
Si l'État...
Oui. Une nouvelle manière de...
Non. Pour ça, c'est le gendarme. C'est le gendarme.
Non, mais... Plus besoin du point de deal maintenant.
Si on veut... C'est pas la peine de défiler le 14 juillet. C'est pas la peine d'aller honorer Jean Moulin si on n'est pas capable aujourd'hui de prendre les mesures. Et ça, c'est les politiques à tout niveau. C'est en finir également avec une partie de la magistrature.
Oui.
Non, mais j'ai quand même une question quand je vous écoute. Désolé, je voulais pas vous.
Et court, s'il vous plaît, Nathan, parce que je voudrais vraiment qu'on dise un dernier mot.
D'accord, oui. Je cite de mémoire, mais il y a environ 5 millions de consommateurs en
France. Si on légalise, ils vont pas disparaître.
Vraiment, je suis désolé, ils ne disparaîtront pas. À tout casser, il y aura peut-être 1 million qui disparaîtra.
Je pense qu'ils
vont pas disparaître. Ils trouveront autre chose.
Oui, mais alors, si on fait une comparaison historique.
Vous aurez des produits plus forts que ce qui sera légal.
Je fais une comparaison historique très radicale et évidemment que ça n'a rien à voir et que c'est différent.
Je suis désolé,
mais c'est un peu comparable à la prohibition de manière très lointaine aux États-Unis. Ça veut dire quand vous interdisez massivement un objet de consommation qui est un objet de consommation massif, évidemment que ça crée un décalage entre la loi officielle et la manière dont les choses fonctionnent officiellement et la réalité du terrain.
Le trafic au Canada.
Ça n'exclut pas de s'engager. Bon. Et l'autre problème relève d'une autre approche, d'une autre démarche parentale, éducative, difficile, il faut rester humble. Je suis père de famille.
Bon. Messieurs, je suis désolé de vous couper, mais il nous reste très très peu de temps. Je voudrais remercier Marc Lamola et éventuellement vous laisser librement conclure c'est presque 45 minutes qu'on a passé ensemble sur ce sujet. Pardon, il me reste peu de temps, hein, si ça peut être constructif.
Oui, si je peux conclure, je vous remercie. Je voudrais dire, oui, la guerre est perdue, et ça, malheureusement, je confirme. Et si on peut parler de solutions, moi, des solutions, aujourd'hui, je n'en vois pas. Alors, je n'ai pas la science infuse, mais des solutions, je n'en vois pas, compte tenu de l'état et de l'ampleur des trafics, et compte tenu de l'état des trois institutions, à savoir la police, la justice et l'administration pénitentiaire, dans quelle situation elles se trouvent. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis plutôt très pessimiste, et je ne vois pas de porte de sortie. Voilà. Je connais Marseille, c'est ma ville, j'y suis né et je déplore ce qu'elle est devenue. Et pour conclure, je l'ai même quitté. Voilà, j'habite en banlieue aixoise d'Aix-en-Provence où je ne pouvais plus vivre dans Marseille.
Eh bien, ce constat, il est terrible et vraiment pas réjouissant. Mais merci infiniment, en tout cas, Marc Lamola. Merci. C'était très instructif de vous avoir. Pourquoi pas un jour en plateau, ce serait un plaisir. Ancien policier, auteur.
Et
je vais
montrer
une dernière fois votre ouvrage, le dernier en tout cas, parce que vous publiez beaucoup ces 10 dernières années, écrit avec Laure Garcia, Extrême Onction chez Sud-Arène. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps, les amis, pour une petite revue de presse ou pas? Rapide, me dit-on. Allez, ce que vous retrouverez dans vos kiosques demain, Le Figaro avec Emmanuel Macron en une, avec le chancelier Scholz, la mésentente cordiale, Le Figaro qui nous dit que la Bourse de Paris bat tous les records en ce moment également aujourd'hui en France sur l'intelligence artificielle, ces applis qui nous bluffent. Tiens, un petit papier sur Warren Zaïre-Emery, la nouvelle pépite du PSG qui n'est plus mineur depuis quelques heures et qui va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le CAC 40, un cap historique là encore pour les Échos, égalité femmes-hommes pour Ouest France, les progrès qu'il reste à faire. Ben oui, puisque c'est la une du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, qui verra également la cérémonie officielle pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Absolument. À la place Vendôme. Shérif Chekat, un parcours dans la vie et dans la violence et le chaos pour les DNA. Et enfin, le Maine Libre, un atelier vélo au féminin. Tout un programme pour nos amis du Maine. Merci les amis de nous avoir suivis. On me presse dans l'oreille. C'est chez vous, me dit Thomas Leroy. Chez lui. Et bien Thomas Leroy a édité cette émission, je le remercie. Oui, merci les amis. Si chacun me dit la région de laquelle il vient, je ne vais pas réussir à conclure. Sophia Rousseau m'a aussi beaucoup aidé, Coralie Deleplace. Merci à tous les 6 d'avoir participé à l'émission. Demain c'est vendredi, c'est le week-end. Olivier Carenfleck prend la suite de Soir Info. À lundi, très bon week-end à tous. Bonne nuit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.